CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olpe et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
You need a real man.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Bonjour Pascal Olivier.
Salut à tous.
Bonjour Gaël Steinbach.
Bonjour tout le
monde.
Bonjour
Georges Bonfils.
Bonsoir tout le monde.
Merci d'être là pour cette spéciale jazz.
Pour une fois, on va pouvoir.
Il fallait bien que ça arrive.
On va pouvoir parler de jazz.
Ça nous est tombé sur le coin de la caboche, là. On l'a évité pendant longtemps, puis là.
Et sans parler sur les morceaux.
Non seulement on va en parler, mais en plus on va en écouter, tu te rends compte. Et puis alors on va en écouter dans tous les styles. Parce que c'est en fait au départ une idée de Jean-Marc Jouet. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Rémi, ça va ?
Merci d'être là, ouais, ça va bien, merci. Bonjour Pierre Conda.
Bonjour Rémi.
Merci d'être là aussi pour parler de Jazz en Padovanie. C'est le nom du documentaire que vous êtes en train de réaliser.
C'est ça.
Du nom de Padovanie, Jean-Marc Padovanie. Parce que des Padovanie, il y en a plein. Il y en a même un qui est plutôt rock'n'roll et qui avait joué, qui avait claqué la porte du groupe Police en son temps en disant... Vous êtes un groupe de merde, vous réussirez jamais, je me barre. Et je crois que celui-ci, il s'en mord encore un petit
le
peu
les doigts
aujourd'hui. Mais c'est pas Jean-Marc Padovanie.
Il fait X-Factor.
Alors,
c'est vrai? Oui.
Ah.
Il est membre du jury de X-Factor France.
Ah bah tu vois, ça mène à tout. Ouais, il a claqué la porte.
Il a mal vieilli, moi, je veux dire. Hein, mais de temps en temps, quand Police vient en France, il le faut monter sur scène quand même.
Ah, ah bon?
Oui.
C'est vrai?
Il faut faire deux ou trois morceaux.
Ah, d'accord.
Ce qui doit remuer encore plus.
Oui, le couteau dans la plaie, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, en fait, il se trouve que Jean-Marc, batteur de comment s'appelle le quartet
le Track Maasai, par exemple.
Voilà, le Track Maasai. Organisateur aussi des derniers vendredis du mois au VO, là,
avec
des rencontres
Pierre,
jazz
avec Pierre. Non, parce qu'on était déjà venu pour en parler de tout ça. Ouais, ici,
et en fait, c'est au milieu de ce foisonnement de jazz, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une émission où tu emmènerais du pâté et une bonne bouteille de vin, puisque t'avais quand même très envie de venir à Qu'est-ce qu'on déguste.
Et oui, j'aime beaucoup venir. J'avoue, c'est toujours un plaisir pour moi. Hein. Alors cette fois-ci, je me suis dit, je vais amener des nourritures différentes.
Ouais. Hein,
pas que de la musique, du pâté, du bon pâté de la maison.
De son papa.
Du vin qu'a amené Pierre, là c'est lui qui l'a amené, du bon pain que je suis allé acheter spécialement pour vous à la ville-dieu du Temple, parce que j'aime beaucoup le pain de la ville-dieu du Temple.
Ouais, bah, génial. Écoute, alors on va se faire un bon... début de week-end ensemble autour de l'idée du jazz. On va écouter la sélection jazz de Christophe Bory qui n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui, mais il nous a laissé quelques disques. Donc il y aura entre autres Eric Truffaz qui va ouvrir là tout de suite. On écoutera bien sûr Padovanie en long, en large et en travers. Vous nous expliquerez qui
c'est hein, ça.
Ce on est là pour Jean-Marc Padovanie et pourquoi vous lui consacrez un documentaire. Georges, pour ta part, toi, tu nous feras écouter le jazz dans sa classicité ?
Alors non, j'ai choisi du jazz festif avec les Pink Turtles qui sont en train de se séparer après 15 ans de bons et loyaux services.
Les rois de la reprise, hein, jazzy, ouais. Hein, les Pink Turtles. Et pour toi
Là, on parlera d'une bande dessinée qui s'appelle Django, qui retrace d'une façon un petit peu iconoclaste, puisque c'est Johannes Farr qui l'a au scénario, la vie de Django Reinhardt.
D'accord. Pour Pascal ?
Eh bien, moi, pour une fois, je vais vous parler d'un livre qui m'a fait beaucoup rire, qui est un livre de Jean-Pierre Mariel, qui s'appelle Le Grand N'importe Quoi. C'est plein de petites maximes, de réflexions, des choses comme ça. Il y a des choses sur le jazz, il y a des choses sur le vin, donc si tu voudras bien nous en lire quelques extraits avec ta voix...
Bon, ce sera avec plaisir.
Avec ta diction incomparable.
Et du côté de l'actualité, nous passerons un coup de fil en fin d'émission à Richard Planas, qui est le directeur des Crus de Limoux.
De là où c'est. De la Limoux, et parce qu'il est organisé samedi et dimanche le célèbre Tocs et Clochers, donc il va nous expliquer tout ça.
Grande manifestation à Limoux, Tocs et Clochers. Alors,
revenons à nos moutons.
On démarre avec Eric Truffaz. On fait de suite un petit coucou à notre ami Anthony qui nous met dans la chatbox de cfmradio.fr. C'est normal que je n'entende rien.
Alors, il faut monter le son.
Si tu n'entends rien, je peux même pas te dire si c'est normal ou pas, puisque tu n'entends pas. Ah, c'est ça, ouais, la magie de la radio par
ou
internet.
Tourne le bouton.
C'est ça. Non, il y a un petit bug sur le site, pensez-y, il faut cliquer plusieurs fois. Cherchez, on trouve. Chin alors.
Toujours très bon ça, les fraises.
Every door when access is denied, Rasta not disqualified. Almighty God has never died, and John know that the space is deeper than the riverbed. And if you're weak and you're big head, you'll drown like a piece of lead. So wise up, dread uprise instead of kicking it with the wicked workers of iniquity. It's sick to see the way the forces of trickery be disrespecting human dignity, trying to get rid of we. But we reason critically and carry the banner of victory, no diggity. One love conquers misery, we chant as I'm a day against ignorance and hate. We demonstrate the power of the seventh state, perfection of the faith, climbing over heaven's gates. Salah. No matter what must be we there. Salah.
Voilà, Christophe nous a laissé une note. Le trompettiste franco-suisse signé chez Blue Note, le plus célèbre des labels de jazz, sous haute influence, Miles Davis reste toujours à l'avant-garde grâce à des rythmiques hip-hop ou drum and bass. Et on était censé écouter un morceau extrait de l'album, si ça marche, Bending New Come, sorti en 99. Et le morceau, je sais pas lequel c'est. Ah, c'est le 1, je sais pas. Aurélien, tu es là ? Sweet Mercy. Alors, qu'est-ce qu'on déguste ? Spécial jazz autour donc de Jean-Marc Padovani avec Jean-Marc Joigny et Pierre Condat de Petit Matin un beau matin production, pardon. Alors pourquoi jazz en déjà matin, ouais. Pourquoi ce jazzman là ?
Alors bon, mais comme tu l'as dit pourquoi le titre déjà Jazz en Padovani? On peut peut-être commencer par ça. Donc c'est un film documentaire sur Jean-Marc Padovani. Jean-Marc Padovani faisant du jazz, et on a essayé de faire un petit jeu de mots avec la Padovani qui n'existe pas. Nous avons appelé ce documentaire Jazz en Padovani pour lui trouver un titre, bon, comme un autre quoi.
Tout bien, là, jusque-là, c'est là, bon pour l'explication. Bon, il faut l'aider, Pierre.
Il y a une raison. Ah. Parce que on dit toujours que c'est un jazzman du Sud, donc il y avait une idée de territoire quand même. Donc puisqu'en fait c'est un jazz européen qui se distingue du jazz américain au sens qu'il utilise les racines j'allais dire la musique folk un peu en les traitant façon jazz et en faisant un panel assez large, c'est-à-dire que ça part du Limousin jusque les Balkans et le Maghreb. Et ça va même un peu sur
jazz méditerranéen, on dirait un peu. Et il est d'où? Il est d'où ce gars? Il est du sud.
Il est de Nîmes.
Il faut parler dans le micro.
Il est de Nîmes. Et ça s'entend aussi. Il est de Nîmes. Donc c'est un bon vivant de Nîmes. Voilà.
Alors.
On pourra même l'appeler pour lui poser la question tout à l'heure.
Ah ben oui, moi je suis assez d'accord, mais parlez-moi un peu de son parcours quand même, parce que j'imagine qu'on se lance pas dans le documentaire d'un d'un gars comme ça sans savoir s'il a été au CM2, été à l'école musicale.
Ça, on le savait pas.
Non. Non.
Mais d'abord, il joue de quoi?
Et il joue du saxophone. Ouais.
Ah.
Voilà. Et on mais, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. Bon, même si lui, il me connaissait pas. Parce qu'il avait participé à un festival qui est assez connu dans la région, qui était le Festival d'Acier.
Oui,
dans
Acier,
les années
60. Oui.
Donc c'était un des piliers du Festival d'Acier.
Et il était beau dans les parcours,
voilà,
avec dans les
donc
jardins,
était un
là,
festival du château, qui ouais, sortait de l'ordinaire. Ouais. Il n'y avait pas que de la musique, il y avait des gymnastes, il y avait
très
expérimentations,
vieux,
etc. Donc c'était quelque chose.
Aux années 80,
85. C'était quelque chose d'assez unique en son genre. C'était pas, il y avait un accueil très particulier. Donc il avait monté ça. Parce que c'est quelqu'un de très curieux et qui est ouvert à beaucoup de choses. Voilà. Donc, moi, quand j'ai appris que Padovani venait à Toulouse, il s'est installé il y a 2 ans à peu près, donc je me suis dit, je suis allé le voir, et on en a discuté, on a eu envie, et moi j'avais envie de faire quelque chose dans ce genre-là, donc j'ai cherché des gens qui connaissaient un peu le cinéma, j'ai rencontré Jean-Marc Giraud et Jean-Marc Joigny, et bon, l'idée, comme ils avaient envie de faire aussi quelque chose, un documentaire original, bon, mais ça s'est fait comme ça, ça s'est bien tombé, et puis voilà, on est parti là-dedans.
Alors, c'est production maison.
Production maison.
Oui, oui, c'est production maison. Disons que Jean-Marc Giraud, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en tournage, c'est son métier de faire des films. Donc ça a été, c'est lui qui nous a beaucoup aidé, ne serait-ce que par le matériel. Bon, il est réalisateur de métier, donc il y a un scénario qui a été quand même écrit hein, pour ce documentaire. C'est construit. On va découvrir la vie de Jean-Marc Padovani. Déjà son parcours actuel, qu'est-ce qu'il fait actuellement, que fait Jean-Marc Padovani au jour d'aujourd'hui?
Putain, ça, c'est une question.
Et justement, pour toi, qui ne sait pas.
Moi, j'aimerais savoir d'abord qu'est-ce qu'il faisait quand il était petit, qu'est-ce qu'il a emmené à jouer du saxo. Mais pour le moment, j'y arrive pas. Il faudra que je pose la question.
CM2, il était en flûte.
Non, mais c'est moi qui pose des questions, c'est pas vous qui décidez du truc de l'émission. Tiens, d'ailleurs, regarde, je te le prouve. Non, là, je veux rien savoir, je veux du pâté. Ça ne m'intéresse plus du tout.
On s'en fout complètement.
On s'en fout. Alors,
on peut venir voir le documentaire, mon ami.
On s'en fout. Tiens, d'ailleurs, on va parler un petit peu de ça maintenant. Là. Allez.
Mais oui, Jean-Pierre Marielle, j'ai découvert c'est pas un bouquin récent, c'est un bouquin qui a 3 ans, 4 ans. Et un petit livre de Jean-Pierre Marielle qui s'appelle Le Grand N'importe quoi. L'exergue s'est décalé, il paraît que je le suis. Il est certain que je ne suis calé en rien. Et donc Jean-Pierre Marielle, bon, tout le monde connaît cet acteur avec cette voix absolument unique. Et il a sorti ce petit bouquin, donc qui est des, tu vois, par lettres alphabétiques, tout un tas de choses sur l'omelette, des petites maximes de Françoise Fabian, de Gustave Flaubert, des grand copain avec Jean Carmé. Et donc là, il se prenait des bitures phénoménales. Carmé n'était pas le dernier, et Jean-Pierre Marielle non plus. C'est bien à lire. Alors moi, j'ai trouvé ça à la bibliothèque de Montauban. Quand je le rendrai, vous pouvez aller le chercher. C'est assez, ça se lit très bien. Voilà, c'est des petites.
Ça date un peu, c'est de quand ça?
Oui, ça, c'est de 2007, je crois.
Oh, ça va, c'est pas très très vieux.
Non, de octobre 2010. Non, c'est pas vieux du tout. Ouais. Dépôt légal, octobre 2010. Il y a plein de choses. Alors bon, il parle du vin, il parle de ses
amis, du jazz. Trouve-nous quelque chose
sur le jazz. Kenny Clarke. Alors Kenny Clarke, est-ce que tu peux nous dire, Georges, qui était Kenny Clarke?
Kenny Clarke était un batteur de jazz. Qui a fait figure de maître et qui a fait des générations de batteurs qui l'ont suivi.
Il était américain?
Il était noir américain.
Et installé à Paris, il jouait beaucoup à Paris. Voilà ce que dit Jean-Pierre Marielle, qui apparemment le connaissait très bien.
C'est dommage, c'est pas il imitait Jean-Pierre Marielle. Comment il parle un peu Jean-Pierre Marielle?
Ah ben on a voilà, il a une voix très grave et puis tout le monde s'en souvient dans les Galettes de Pont-Aven, ce splendide rôle de représentant de parapluie. Voilà,
il exalte.
Ah bordel, nom de Dieu de bordel de mer. Voilà.
J'adorais le batteur, jazzman formidable, et l'homme aussi. Ce qui arrive souvent. J'ai tendance à mêler mon admiration au sentiment. En 1989, 3 ans après sa mort, nous étions au Club Saint-Germain avec René Hurtruger, qui l'avait accompagné au piano. Je passe ma main machinalement sur une poutre. Il y avait là un joint desséché. Presque un papyrus que j'ai reconnu sur le champ, d'après la technique de roulage, comme étant l'œuvre de Kenny. Nous l'avons fumé en prenant notre temps. À sa mémoire.
Voilà. Donc René Hurtruger aussi un grand pianiste qui a joué aussi avec Miles Davis. C'est lui qui a fait qui a joué avec Miles sur Ascenseur pour l'échafaud. Et voilà, bon, il y a plein de choses comme ça. On lira aussi d'autres choses sur le jazz ou sur le vin. C'est très rigolo à lire et c'est un acteur formidable. Eh bien, moi, un de ces jours, je pense qu'on devrait l'appeler au téléphone.
Jean-Pierre Marielle?
Oui.
Avant qu'il meure, hein.
Ça va.
Le grand. Non, mais il est vieux. Attends, il a un siècle et demi.
Il était au conservatoire avec Belmondo, avec Françoise Fabian. C'est vrai que là, ils sont pas des
premiers
âges.
Belmondo est mort, Françoise Fabian est mort.
Ils sont tous morts. Non. Jean Rochefort est toujours là, bien heureusement. Et il faudra repasser cette scène d'un film de qui s'appelle Calmos.
Elle est finie, la chronique stop.
Non, qui s'appelle Calmos et où ils sont à table sur du pâté et il dit quand la nourriture saine sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Je crois qu'on l'a quelque part, Aurélien, si tu le trouvais, ça serait pas mal. Bon,
voilà. Jean-Pierre Marielle, le grand n'importe quoi chez Calman Lévis. Fait un petit peu de ce pâté. Raconte-nous un peu l'histoire de ce pâté, Jean-Marc.
Alors ce pâté, c'est du pâté fait maison qu'a fait mon papa qui était boucher quand il était en activité. Et donc il fait toujours pour le plaisir, pour la famille, du pâté et d'autres.
Il fait le cochon annuel. Il fait ce qu'on appelle le cochon dans le coin.
On peut pas dire exactement ça, mais c'est le même esprit, quoi. Ouais. Disons, hein, voilà, parce qu'on n'a pas forcément des animaux à la maison, mais voilà.
Non, bah, t'es pas obligé d'avoir. Moi, j'ai plein de copains. Ils font le cochon.
Oui, voilà. Ouais.
Ils l'ont pas chez eux.
Non, mais le faire, c'est l'avoir chez l'élever chez soi.
Non, le faire, c'est quand. On te livre à la limite le demi
le demi ou l'entier.
Le demi ou l'entier. Et puis tu fais le boudin, tu fais tout ça après.
Voilà, c'est un peu ça.
La sanquette, le pâté de tête.
Ça prend la journée avec toute la famille.
Ouh, il faut deux jours pour se taper
facile,
ça.
Facile.
Ah oui, il faut deux jours.
Tu fais, toi tu...
Non. Moi, j'ai complètement abandonné ce côté.
La transmission.
Terrible, quoi.
Et la transmission.
Non.
Moi, je referais bien, c'est un cochon. Ça, c'est bien. Enfin, pas un cochon entier, mais un demi-cochon en se mettant à quatre. C'est tout à fait honorable.
Comme un canard déjà.
Ouais, je suis assez d'accord, mais moi j'aimerais bien juste là par exemple pour commencer me faire un petit morceau de pâté. Ça pourrait se faire.
Je vais vous servir.
Monsieur Pro.
Avant qu'on lui passe un coup de fil quand même, Pierre Conda, Jean-Marc Merci. Padovani, donc saxophoniste. Quel âge il a ce monsieur ?
Le même que moi, 57.
D'accord. Voilà. Et il a ce parcours-là dans le jazz et dans le saxo depuis longtemps.
Depuis
il a fait
très
quoi
longtemps. Et ouais. Il a commencé par, il nous a raconté, il était banjoiste dans un groupe nîmois.
Dans un groupe nîmois.
Et puis, comme il n'était pas très bon au banjo, on lui a proposé de passer au saxophone. Il est devenu saxophoniste. Et puis, il y avait un festival de jazz très important à Nîmes, dans les arènes. Donc il a eu la chance de s'occuper de ce festival, et puis il a monté un groupe et il a fait la première partie de Maldivis. Et c'est ça qu'il a lancé. Et
à partir on est en quelle année là ?
Voilà, on a la tête.
Parce que là, faire 80, la première partie de Maldivis,
c'est avant les années 80. Les années 84, ouais, je sais pas si c'était en 84.
Ouais, 83-84, festival de Nîmes. Oui.
Et c'est ça qu'il a lancé. À partir de là, il a monté toujours. C'est quelqu'un qui a toujours des projets. Il a toujours eu des projets, il a eu toujours 4-5 groupes au feu qui tournaient sur des projets différents. Tout le temps, et aussi bien dans le domaine du jazz que dans le domaine de la danse, du cinéma. Il a toujours été dans des expériences, et c'est quelqu'un de très ouvert à de multiples expériences.
D'accord, mais donc pas dans le
pas
jazz
sexuel,
pas dans le jazz New Orleans, on est d'accord?
Non,
c'est plutôt dans ce qu'on pourrait dire, on pourrait parler de jazz moderne, c'est-à-dire il se sert de morceaux, de classiques de jazz des années 50-60 essentiellement, et il les réarrange d'une façon assez intéressante, et on pourra découvrir ça dans l'émission peut-être à travers deux morceaux qu'on a apportés, deux morceaux d'Oliver Nelson qui est un grand compositeur très classique.
C'est
le morceau, le premier morceau s'appelle un Stolen Moment, c'est un des standards les plus joués des musiciens de jazz.
Qui a été joué par Coltrane.
Oui. Et l'autre Cascade, et on pourra comparer, ne serait-ce que le début de ces deux morceaux, la version originale par Oliver Nelson des années 50-60, et puis la version de Jean-Marc Padovani actuelle.
Hein. Allez, on écoute une première version, je sais pas laquelle c'est. C'est qui ça ? C'est la version Padovani ça ?
Non, on l'a vu à Oliver Nelson.
D'accord.
Comme ce morceau que tout le monde connaît, pour l'entendre. Thank you.
Je voudrais juste dire un truc, Pierre. Juste avant ce morceau, tu as dit, mais ça, c'est un thème que tout le monde connaît, etc. Et c'est peut-être là qu'est le problème avec le jazz, avec les amateurs de jazz et avec les musiciens de jazz. Parce que moi, tu vois ce que je viens d'entendre, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Et je ne le connais pas. Voilà. Et du coup, quand on se retrouve dans certains festivals de jazz ou quand on se retrouve dans des soirées bœuf jazz, tout ça, au milieu de gens qui parle de jazz et de jazzman qui se parle de jazz, bien souvent, on se sent exclu finalement parce que tout le monde connaît, enfin tous ceux qui connaissent le jazz connaissent. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ça existe partout. Hein. Tu l'as pareil pour l'opéra, tu l'as pareil pour la musique classique, pour plein de domaines, pour le tango, pour la musique espagnole. Dès que tu commences à rencontrer des gens qui sont un peu pointus, c'est pareil, hein, tu as la même impression.
Ouais.
Mais il y a quand même des morceaux de jazz qui font partie de la culture générale, je dirais, qu'on a moins entendu, quoi.
Aucune culture générale, celui-là. Alors, Jean-Marc Padovani, à part faire l'objet de votre reportage, qu'est-ce que c'est son actualité actuellement? Il joue dans un groupe, il fait des disques, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Marc?
Alors, c'est très drôle que tu poses cette question, parce que Jean-Marc Padovani, par exemple, on est allé le voir jouer hier soir. Hein, alors, c'était un peu particulier, mais c'était très drôle, on va en dire deux mots, on est allé au congrès de la CGT hier soir, à Toulouse.
Oui, hein, Toulouse, hein,
voilà.
Extraordinaire.
Et on est allé faire des images du concert de Jean-Marc Padovani, en l'occurrence c'était Fanfare Céleste, avec Enzo Corman, qui est un poète, écrivain, poète, on
un
peut
diseur.
Dire, voilà, un diseur, et c'était des reprises de Claude Nougaro, en fait. Et avec une formation basse, batterie et des cuivres après, ouais, trompette, trombone, saxophone. Et à l'occasion de ce congrès de la CGT, il y avait plusieurs groupes tous les soirs et il y avait entre autres Jean-Marc Padovani qui jouait hier soir avec cet orchestre-là. Voilà. Mais Jean-Marc Padovani, en fait, c'est quelqu'un qui se produit régulièrement sur les scènes jazz. Alors évidemment, peut-être toi Rémi, tu l'as jamais vu, donc bon, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a une actualité assez riche, qui sort pas mal d'albums, qui s'entoure de musiciens de talent, de diverses variétés.
Si l'an dernier, on l'a fait venir en VO.
C'est à cette occasion-là qu'on l'a un peu plus. Enfin, Pierre le connaissait bien avant, mais que moi je l'ai un peu plus découvert, je l'ai fréquenté, j'ai joué avec lui parce que à l'époque j'étais le batteur du Big Band de Montauban et j'ai pu jouer avec lui, ce qui était un vrai plaisir, hein, pour tout dire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on lui a proposé de faire un film sur lui. Et comme c'est quelqu'un de fonceur qui est prêt à tout, qui est très naturel, un bon vivant tout simplement.
Ah, bon vivant, hein, il est ici pour le pâté et le vin.
Et il a dit oui,
vous aurez
tout
un bon
de
client,
suite, hein, sans vraiment nous connaître plus que ça. Et c'était le challenge, c'était après d'être nous à la hauteur de ce qu'il nous avait.
D'accord. Non mais nous, dans un premier temps, on va lui passer un coup de fil tout à l'heure, dans le prochain quart d'heure, on va lui passer un coup de fil à Jean-Marc Padovani. Si on le trouve sympa, il pourra venir. Georges, toi, dans ta vie de musicien, de contrebassiste ou de programmateur de festival à une certaine époque, tu l'as rencontré, Jean-Marc Padovani?
Non, j'ai jamais rencontré.
Jamais croisé.
Moi, je le connaissais de nom à l'époque. Je pense qu'il était sur Paris. Et je l'ai pas eu dans les programmations que l'on me proposait.
La suite.
Il fait partie des bons saxophonistes.
Ouais, tu l'as. T'as des disques de lui chez toi Tu nous as jamais proposé.
J'avais jamais proposé, non.
C'est pour ça. Je suis sûr, en fait, c'est un canular. Il nous dit, c'est un mec qui n'existe pas, pas de
raison. Il n'existe pas, ce mec. Et on n'a pas tout dit, parce que maintenant, il collabore avec un pianiste de Toulouse, qui s'appelle Philippe Léoger, qui dirige le Big Band de Toulouse, qui travaille au conseil régional, à l'action culturelle. Et il joue des œuvres de Déodat de Sévrac et de Mompou, c'est-à-dire du classique début 20e. Quoi. Et ils ont retravaillé ces morceaux avec des arrangements de jazz. En gardant les mélodies classiques. Et ça donne un résultat qui est assez impressionnant. Et nous, on l'a vu en concert au mois d'août. Et c'est une musique qui est pas très facile à classer, peut-être, mais qui est très agréable à suivre et très intéressante.
Qu'est-ce qu'on déguste? Spécial jazz. On parle de Jazz en Padovanie, un documentaire qui est en train d'être réalisé par Jean-Marc et Pierre ici présents. Ça, c'est par un Beau Matin production. On peut déjà annoncer que le 12 avril, il y aura une projection presse où je serai peut-être invité. Non.
Oui, Rémi, tu seras invité à l'avant-première le 12 avril, le vendredi. Ça sera un vendredi.
À l'espace des Augustins.
À l'espace des Augustins. Une belle petite salle qui mettra en valeur, je l'espère, notre film documentaire.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste dans un instant.
CFM à Montauban. 101.2. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, si vous prenez le train en marche, sachez que ce soir, c'est une spéciale jazz. Nous nous intéressons à un documentaire qui est en train de se tourner sur un artiste de jazz du Sud qui s'appelle Jean-Marc Padovani. C'est un Beau Matin production qui tourne ce documentaire et un Beau Matin production. Eh bien, c'est Jean-Marc Joigny. Salut.
Salut.
Et Jean... Pierre, pourquoi Jean? N'importe quoi.
Parce qu'il y a aussi un Jean-Marc Augereau, qui n'est pas là aujourd'hui.
Voilà, c'est pour ça. Et Pierre Conda, donc merci d'être ici pour nous présenter ce documentaire et puis nous faire écouter finalement ce que fait ce musicien de jazz. Du coup, nous donne l'occasion d'écouter d'autres formes de jazz aussi. On va de suite passer à The Air Factor. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la sélection de Christophe Bory qui n'est pas là aujourd'hui. Puis tout à l'heure, on écoutera aussi ta sélection, Georges. Un petit clin d'œil au Pink Turtle. C'est dommage qu'ils se séparent ceux-là quand même, hein.
Oui, peut-être trop de... Là, ils ont joué ensemble pendant 10 ans avec l'hommage à Louis Prima. Puis 5 ans en Pink Turtle, peut-être que 15 ans de tournée, de concert dans
ça
tous
use.
Les coins du monde, ça use.
Voilà. Un petit peu de bande dessinée tout
mais aussi sur le jazz, donc puisque une vie dessinée de Django Reinhardt.
Voilà, et puis...
On parlera de la préparation à la jambe de bois.
D'accord.
Ça, c'est génial, ça.
Mais si tu
préparation
veux.
À la jambe de bois.
Si tu veux, je vous rappelle aussi qu'on passera un coup de fil à...
Richard
Planas, directeur des bulles
De
Limoux, parce qu'il y a Tocs et Clochers. Et puis, entre-temps, quand même, on va passer aussi un coup de fil à Jean-Marc Padovani. Oh là là, mais dites donc, c'est chargé. Heureusement qu'on a un petit peu de la folle d'en bas qui arrive, parce que les crèces, c'est fini. Le pâté est bien entamé.
Une folle d'en bas du rock.
C'est le problème, c'est le problème de la modération. Ça. Quand on consomme avec modération beaucoup, ça va trop vite.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on déguste?
Thank you.
Alors, jeune trompettiste de Dallas, il était dans la même école d'art qu'Erika Badu. Il sort des disques de jazz classique sous son propre nom et des morceaux plus funky avec son projet RH Factor. Bel exemple avec ce morceau Kansas City Funk. Alors ce Jean-Marc Padovani, qui est musicien, il transmet son savoir à l'université du Mirail à Toulouse. Et heureusement, parce que c'est le fil rouge de votre documentaire, messieurs.
C'est ça, c'est ça. Sur les 26 premières minutes de notre documentaire, c'est-à-dire la moitié, en fait, on va découvrir ce que fait Jean-Marc Padovani à la fac de la fac musique de l'université Toulouse le Mirail. C'est-à-dire qu'il est intervenant, il est pas prof, il est intervenant extérieur. C'est-à-dire que par rapport au prof qui enseigne la musique jazz, en l'occurrence, ce sont des étudiants qui sont en licence jazz. C'est-à-dire, c'est déjà un très bon niveau. Et
pas plus 3.
Il y a effectivement des musiciens qui jouent.
À cela, tu peux
bien
leur dire, oui, comme tout le monde connaît, eux, ils connaissent. Ah, là. Ou s'ils connaissent pas, ils changent. Hein. Pas,
oui, donc, on va découvrir, en fait, ce qu'il fait, les interventions, comment il a amené les élèves à faire un concert, un petit concert. Alors il a réuni un groupe de musiciens, ça va être un mini big band en doublant les instruments, il va y avoir deux batteries, deux basses. 3-4 guitares, saxophone, trombone, trompette.
C'est toujours un peu quand même dans l'expérimentation, quoi, dans la recherche.
Ben lui, ouais. C'est quelqu'un qui expérimente et qui a expérimenté toute sa vie et qui continue.
C'est ça. Et puis on l'a suivi sur toute l'année universitaire pratiquement, jusqu'au concert final qu'ils ont donné le 22 février dans une salle à Toulouse, qui s'appelle La Fabrique, une salle de l'université de Toulouse Le Mirail, où on découvre le concert final avec les élèves et le maître, entre guillemets. Et on a filmé ça. C'est le début. Ça sera le début de notre documentaire, un premier morceau on va découvrir avec ses élèves et Jean-Marc.
Alors, Jean-Marc Padovani, justement, qu'on va écouter maintenant dans cette interprétation. Deuxième morceau, tu peux représenter.
Alors,
on a écouté tout à l'heure
Stolen Moments, qui est un grand standard par Oliver Nelson.
Que personne ne connaît.
Que personne ne connaît à cette table. Enfin, non, pas à cette table.
Que moi, je ne connais pas.
On ne connaît pas.
Que tout le monde ne connaît pas. Bon, peu importe. Et là, on va découvrir la version revue voilà, de Jean-Marc Padovani. Totalement différente.
Et juste après, on lui passe un coup de fil.
Marcel Solan.
Ah oui, Marcel.
Un français assez connu aussi.
Il est grand pianiste de jazz, Marcel Solan.
Non, mais je parlais de la chanteuse.
C'est sa fille. Et qui
écrit aussi tout.
Mais
ça,
mais
alors,
si tu ne dis pas dans le micro, voilà. Je ne t'entends pas.
Sorry.
Et qui a écrit aussi tout ça, Saint-Tropez, Marcel Solan.
D'accord.
On y va ?
Eh ben, c'est parti. Bonsoir Jean-Marc Padovani.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, vous nous rejoignez autour d'une table où déjà une bouteille est vide, l'autre est pas mal entamée, il y a presque plus de pâté, mais on vous accueille quand même avec plaisir.
Que plus que moi, quoi.
Voilà, voilà. Voilà. Bah, une autre fois, j'espère. Alors, dites-moi, ça doit faire plaisir à l'ego, déjà, quand des musiciens et des amateurs de jazz viennent vous trouver pour vous dire, tiens, je tournerais bien un docu sur toi.
Voilà, ouais, c'est même assez confondant, quoi. Enfin, voilà, j'espère que c'est disons, pas mon... Mon champ du cygne, quoi, c'est tout.
Ouais, c'est pas une rubrique nécrologique.
Non, j'étais vraiment très content de cette initiative, oui. Puis c'est surtout la façon dont ça a été proposé.
Hop, attention.
C'est l'idée de monter un travail en cours d'élaboration. C'est ça qui m'a d'autant plus intéressé, quoi, dans ce projet.
Alors, vous savez, moi, ce que j'essaye de savoir depuis tout à l'heure, Jean-Marc, on a des petits soucis de l'Arsène, mais ça va se régler, c'est savoir qu'est-ce qui vous a emmené, vous, vers le jazz, parce que pour moi le jazz est déjà un grand mystère, et j'aimerais savoir si déjà jeune enfant vous étiez déjà amateur de jazz et qu'est-ce qui vous a emmené sur ce terrain-là, parce que depuis vous passez votre vie du coup à expérimenter dans ce style de musique.
Oui, non, ce qui m'a amené au jazz, moi j'ai fait des études de musique tout à fait classique. Ce qui m'a amené au jazz, c'est l'écoute des grands musiciens de jazz, et puis je pourrais dire qu'à un moment donné, effectivement, ça a été à la fois la conjonction d'écoute de certains grands musiciens comme Albert Ayler ou John Coltrane qui m'ont vraiment, tout d'un coup, je me suis dit, mais tiens, si je continue à faire de la musique, c'est cette musique-là que j'avais envie de faire. Et puis c'est aussi le milieu dans lequel j'étais à ce moment-là. J'étais à la fac, j'avais commencé des études déjà de musique depuis un moment, mais à la fac, tout d'un coup, il y a eu une ébullition. C'était dans les années, tout début des années, fin des années 70, début des années 80, et puis je me suis laissé embarquer dans cette musique qui a été pour moi synonyme de liberté. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Voilà, donc je suis parti là-dedans sans aucune... j'avais pas fait un plan de carrière, disons. Voilà, je me suis laissé emporter par cette déferlante qu'il y avait à ce moment-là autour de, je peux dire, le jazz, mais aussi du jazz rock et de certaines musiques traditionnelles qu'on essayait de mixer avec toute cette chose-là.
Et au banjo, donc, au départ?
Au banjo, mon Dieu. Oui, effectivement. Un de mes premiers engagements, ça a été parce que je faisais la guitare et pour gagner ma vie au tout début, j'ai joué du banjo dans un orchestre du jazz club de Nîmes. Je jouais du banjo et de la guitare, voilà.
Banjo, oui, il n'y a pas une grande carrière. On ne peut pas faire une grande carrière au banjo dans le jazz quand même.
C'est assez délicat. Ouais, c'est assez délicat.
C'est un peu limité.
Et alors, le saxo, c'est quand même, avec la trompette, l'instrument de prédilection du jazz, quoi. C'est sensuel, ça plaît aux filles, en plus, hein, généralement. Non? Non?
C'est vrai, ouais, ça plaît aux filles. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai fait de la batterie, parce que...
c'est pour pas terrible. Ouais, c'est facile à ranger, à transporter.
Ouais, mais il y en a qui ont arrêté la batterie, parce que les autres, ils avaient pris les filles, donc ils sont passés au sax.
Jean-Marc?
On est beaucoup plus vite au bar que les batteurs.
C'est sûr. Ah, ça, je confirme. Ça
m'arrive souvent.
Et on peut jouer au bar, contrairement au batteur.
Et un saxophoniste a toujours un cache-sax avec lui.
Ouais, oh, bravo. Oh là là, je me moque souvent, Jean-Marc Padovani, de mes amis ici présents, Jean-Marc Joanny, Pierre Conda, de leur passion pour le jazz. Je me moque gentiment avec beaucoup d'amitié parce que je ne comprends pas cette musique. Voilà, tout simplement. Et je me dis qu'il faut l'étudier. Est-ce qu'il faut l'étudier pour la comprendre, cette musique-là, Jean-Marc Padovani?
Je crois que c'est le pire, ça. Non, je pense pas qu'il faut l'étudier. Je pense qu'il faut se laisser... D'abord, il faut l'avoir en direct. Je pense que c'est quelque chose où le jazz, je crois que c'est une musique qui se fabrique vraiment en direct. Et je crois aussi que c'est une musique qui se donne plutôt de manière totalement... j'allais dire subjective, plutôt que d'essayer de comprendre comment ça marche. Quoique, moi, je m'amuse pas mal en ce moment à faire de temps en temps des petites conférences où j'explique effectivement comment ça marche. Ça m'intéresse parce que je sais que les gens, entre ces histoires d'improvisation, ces histoires de thèmes, qui fait quoi dans un orchestre, tout ça, les gens, ils sont un peu perdus. Et des fois, ça donne quand même après une lisibilité à ce qu'on écoute. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, c'est très intéressant, je crois, d'avoir des pistes d'écoute, comme pour n'importe quelle musique, de toute façon.
Il y a des portes d'entrée à des moments, quoi, voilà. Et puis, savoir pourquoi, quand on va au festival de Montreux, tout d'un coup, Montreux, c'est du jazz, hein, c'est ça?
Oui.
Tout d'un coup, en plein milieu des morceaux, les mecs, ils se mettent à applaudir alors que c'est toujours pas fini, et 10 fois de suite, en plus, c'est bien de savoir à un moment.
Moi, je crois, Rémi, qu'il va falloir que tu ailles à une conférence sur le jazz donnée par Jean-Marc Padovani pour progresser à ce niveau-là.
C'est vrai ce que dit Jean-Marc, le jazz c'est une musique vivante et qu'il faut aller voir live sur scène. Et c'est vrai qu'en France on a été gâtés, il y a eu plein de festivals, ben Antibes Jean Lépin,
chez nous ici dans le Gers, comment ça s'appelle, Marcia
qui est relativement récent,
mais Montauban aussi,
mais Vienne, Jazz à Vienne, il y a eu Château Vallon à une époque, il y a eu Acier aussi qui a été assez connu dans la région.
Acier, vous y avez été, il paraît, Jean-Marc Padovani.
J'ai fait la direction artistique du festival d'Acier pendant presque 10 ans.
Très beau festival Acier, qui mélangeait pas que la musique, il y avait aussi des plasticiens, il y avait aussi plein de choses dans les jardins, enfin
c'était
vraiment sympa.
Réputé par Jean-François Prigent, qui l'a dirigé de 1986 à 1996, et puis moi je me suis installé dans le Lot à cette époque-là, et j'ai repris le festival pendant une dizaine d'années, effectivement, jusqu'en 2006, voilà, et on a vécu à Acier. Vraiment de très très beaux moments, effectivement, pluridisciplinaires. Il y avait du jazz, mais il y avait aussi d'autres types de musique, il y avait aussi des plasticiens, il y avait aussi, voilà, il y avait des...
Et Acier a fondu.
C'était très très intéressant.
Oh, bravo.
Est-ce qu'Acier a fondu les plombs?
Oui. Heureusement quand même, heureusement pour votre musique, les gars, que la musique électronique est arrivée à un moment avec et que ça s'est un petit peu emparé de ce courant là et que ça l'a fait un petit peu évoluer, parce que il fut un temps, on va remonter 10-15 ans en arrière, le jazz, moi je le trouvais un petit peu moribond, non Jean-Marc Padovani?
Le jazz aurait été une musique qui est un peu au carrefour des musiques, c'est les musiciens de jazz. Ils peuvent un petit peu aller, c'est un peu des touches à tout, qui peuvent aller un petit peu dans toutes les directions. Il y a des musiciens de jazz qui ont été vers les musiques contemporaines, des musiciens de jazz dont je fais partie qui ont été vers les musiques traditionnelles. Moi, j'ai beaucoup travaillé le flamenco ou avec la musique occitane. Et puis, il y a des musiciens de jazz qui ont été vers les musiques électroniques ou la musique de rock. Je trouve ça très bien parce que ça montre que c'est une musique qui continue à être vivante et c'est une musique qui aime bien se mélanger avec les autres. Et puis, de toute façon, le jazz, qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'une façon d'apprendre à improviser? Et à improviser, on peut le faire à partir de n'importe quelle musique. Hein. Je viens d'enregistrer un disque avec Philippe Léoger sur Déodat Séverac, qui est un compositeur de musique classique, et on improvise à partir des thèmes de Déodat Séverac. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le jazz, vraiment l'essence du jazz, c'est cette improvisation, et cette improvisation, elle peut se mettre, j'allais dire, entre guillemets, à toutes les sauces.
Et toutes les formes de jazz continuent à perdurer, que ce soit si on commence par le blues, le boogie, le gospel, et en prenant toutes les formes de jazz, elles jouent, et il y a toujours des chapelles, entre guillemets, pour toutes ces musiques-là, et ça perdure, et les musiciennes, des fois, se mélangent, passent d'un style à l'autre.
Oui, bien entendu, et puis en plus, ouais, voilà, après, il faut un peu essayer de faire un peu exploser toutes ces histoires de chapelles, et je trouve que ce qui est bien, c'est quand la musique, elle est bien, quoi, voilà, alors après, que ce soit du Nouvelle-Orléans, du bebop, de l'électro, ou autre chose, du moment que c'est de la bonne musique, moi, je me régale.
Quand c'est bon, c'est bon.
Il se passe quelque chose.
C'est comme pour le pâté, quand c'est bon, c'est bon.
Et vous viendrez avec votre sax ici dans les studios et une bonne bouteille, d'accord?
Alors là, si vous payez la bouteille, moi j'amène le saxophone. Pas de
problème. Allez, on vous paye la bouteille, ça marche.
On paye la bouteille.
Merci beaucoup, Jean-Marc Padovani, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous aussi, et puis bonjour aux trois camarades. Là, voilà, on s'est vu déjà encore hier soir, donc on ne se quitte plus, quoi. C'est sympa. Voilà.
Vous aviez le point levé pour le concert à la CGT hier soir?
Ah, je vois que vous êtes au courant de tout.
Hein. À tout ce sait, c'est la radio, hein, c'est normal.
Merci Jean-Marc Padovani, au plaisir. Au revoir.
Et à vous, au revoir.
Au revoir.
Santé. À la santé de Jean-Marc Padovani.
Sometimes I feel like a man. Sometimes I beat up, sometimes down. Sometimes I turn myself into a beast. I am prone.
chercher à avoir chose.
Alors, dans un autre style, justement.
Alors justement, dans un autre style, on est en train d'en parler en aparté. Le jazz, c'est de piocher dans toutes les musiques, et ce qu'a fait Pink Turtle, c'est de, d'aller carrément piocher dans la pop musique, dans le rock le plus pur. Et là, nous écoutons un morceau, c'est Will Rock You, de Brian Harold, et l'introduction est une introduction style Duke Ellington au piano. Qu'on peut faire aussi du jazz. Au piano, c'était Jean Marmonto qui avait fait cette introduction au style Duke Ellington. Et Jean Marmonto sera présent au Festival de Jazz de Montauban, au Jardin des Plantes, début juillet. J'ai pas la date exactement en mémoire, mais vous le trouverez sur le site du Festival de Jazz de Montauban.
Eh ben, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une préparation à la jambe de bois?
Ben non,
c'est
non,
pas, on met pas un pilon. Non, c'est une préparation où rentre un jarret de veau ou de bœuf et dont la cuisson laisse apparaître l'os, d'où le nom. Donc il y a deux préparations. Alors c'est typiquement lyonnais, hein, c'est vraiment pas d'ici. C'est vraiment typique cuisine lyonnaise. Donc on peut faire un pot-au-feu à la jambe de bois où l'on utilise comme viande du jarret de bœuf ou du jarret de veau et diverses viandes à os, épaules de porc ou de mouton ou des volailles.
Est-ce qu'on
une fois cuit, l'os dépasse de la viande, d'où la préparation.
Hein, ah oui, on peut faire avec des cuisses de poulet.
Ça peut se faire avec des cuisses de poulet, à la jambe de bois, peu importe. Mais il y a aussi un potage à la jambe de bois en faisant cuire un jarret de bœuf avec des légumes. Il faut 12 oignons, 12 navets, 12 pieds de céleri, une poule, de la rouelle de veau que l'on a fait suer précédemment dans une casserole, et on sert ce plat en plaçant droit au milieu l'os du jarret de bœuf taillé de manière à simuler une jambe de bois. Donc c'est assez spectaculaire, mais c'est toujours très bon. Et puis on a le plaisir de sortir cette os, de tailler la viande et tout. C'est, et une purée de pois cassés à la jambe de bois, c'est terrible aussi.
Je me suis les lèvres parce que je viens de remarquer, après avoir bu quelques gorgées de la folle noire d'Ambade de notre ami Château Le Roc, hein, que Pascal Olivier a les lèvres complètement violettes.
Ça tâche, hein,
ça tâche
la
grave.
Négrette, c'est 100% négrette.
Faut savoir que les violettes sont de sortie. Hein.
Oui, ça, les violettes commencent.
Ah, il y en a cette année. Hein.
Et donc,
qu'est-ce qu'on déguste? Spécial jazz, mais aussi un petit clin d'œil du côté de Tox et Clocher à Limoux ce week-end, mais aussi la présentation d'une BD sur le jazz, mais aussi de la bonne humeur, mais aussi des verres qui trinquent.
Mais aussi des news.
C'est qu'est-ce qu'on déguste?
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Qu'est-ce qu'on déguste spécial jazz? Nous allons quand même nous intéresser à l'actualité du vin et de la bonne chère. Nous allons prendre la direction dans une petite dizaine de minutes de Limoux, où se déroule ce week-end Tocs et Clochers, une grande manifestation qui réunit bien sûr sur un même terrain des grands chefs étoilés, toqués, etc. Qui font de la cuisine pour que on récolte des fonds pour refaire des clochers, d'où Tocs et Clochers. En fait, on refait les petites églises de tous les bleds qui sont par là-bas. Et tout ça en buvant des bulles de Limoux. Et pour le coup,
mais pas que des bulles, il y a aussi du vin blanc.
Mais bien sûr, il y a des bulles. Mais comme on va avoir Richard Planas, le directeur des bulles.
Il fait tout, lui. Il fait pas que les bulles.
Il fait pas que les bulles. Bon, voilà, on voit la
plus. Ouais, on va voir les bulles.
Il en parlera avec moi.
Coince la bulle.
Voilà. D'ici là, quand même, on va s'intéresser à l'actualité jazz dans la région, et particulièrement en Tarn-et-Garonne, et particulièrement à Montauban, parce que les deux Gus qui sont nos invités ce soir, Jean-Marc Joigny et Pierre Conda, organisent ou participent à l'organisation chaque dernier vendredi du mois. De ces bœufs du VO dont on va parler dans quelques instants.
Est-ce que vous allez faire griller un bœuf pour la Saint-Jean?
Un cheval ou un bœuf?
Les deux. En général, ça serait bien ça.
Et puis bien sûr, un petit tour de BD. Mais d'abord, la bande annonce d'un film en Mondiovision.
Je n'ai pas décidé d'être musicien en fait. Je crois que c'est un peu la vie qui m'a porté à le devenir. C'est le fait d'écouter du jazz qui m'a donné envie à la fois de pratiquer cette musique. Et le saxophone s'est un peu imposé par l'écoute de certains musiciens. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est vraiment la forme d'expression que j'ai envie d'adopter pour m'exprimer.
Jean-Marc, si on entend le son du ténor, le son du soprano, on dit voilà, ça c'est Jean-Marc Padovani, c'est son son.
J'ai rencontré Jean-Marc Padovani lors d'un concert et ça a été un peu une révélation. J'ai découvert un son de saxophone que je ne connaissais pas, un son de saxophone ténor. Et je dois avouer que ça m'a vraiment subjugué. Je n'avais jamais entendu un saxophone sonner comme ça.
On ne peut qu'apprendre de lui, parce que il suffit juste de l'écouter pour savoir que telle ou telle chose sont vraies.
On n'a pas une vision de professeur, vraiment, on a une vision de partage musical.
Il a vraiment ce sens inné de l'improvisation, et puis aussi, il a quelque chose que, finalement, aujourd'hui, peu de musiciens de jazz ont, c'est qu'il a vraiment conscience de participer à l'élaboration de l'édifice du jazz qui n'est pas encore fini.
Voilà, ça c'est la bande-annonce pour le film. Où il en est ce documentaire là pour finir là-dessus?
Alors, on a encore tourné hier soir. On a pratiquement fini le tournage, il est au montage en fait. Il sera donc prêt le 12 avril. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Il faut se speeder quand même pour faire le montage.
Ouais, mais non, mais le montage est largement
la diffusion,
empané.
La diffusion, ça va être quoi? Parce que, ok, vous faites une projection presse le 12 avril à l'espace des Augustins à 20h30. Mais après Arte. Au-delà, c'est quoi? C'est Arte?
Il y a plusieurs voies. Il y a d'abord, c'est un documentaire. Donc il y a tous les festivals de films documentaires. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Ensuite, il y a les festivals de jazz qui maintenant se mettent à faire des soirées avec films, conférences et derrière concerts. Ensuite, il y a le local. C'est quand même un artiste local, donc on peut le vendre aussi aux radios, télé local, enfin aux télé locales.
Radio, ça local, va.
Ouais, pas aux radios, non, mais aux télé. Ben, localement. Et puis ensuite, effectivement, il y a
j'en veux un petit peu.
Ouais.
Il en a besoin.
Et ensuite, il y a, effectivement, il y a les télés spécialisées au niveau national. Il y en a deux ou trois, quoi.
Voilà. Oui, il faut se rapprocher des télés aussi. C'est le film, il a un format de 52 minutes. On l'a pas fait pour rien. On l'a fait aussi pour essayer de le vendre, entre guillemets, à des télés, puisque c'est un format classique.
Oui, enfin, de toute manière, un documentaire, c'est pour être vu, si
voilà.
possible.
Le but, c'est de le faire voir après, effectivement. Là, on est que trois à bosser sur ce projet, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail pour tout dire. Mais quand il sera monté, l'avant-première sera passée,
on va se caillasse que vous allez prendre
à la diffusion de ce projet. Ah ouais. On a des touches pour l'instant, je vais pas en parler, mais on a des touches.
Oui, je crois qu'on a un tweet de Christophe Ondelat, là, pour Faites entrer Padovani.
Qu'est-ce qu'on boit là?
Eh bien là, c'est un Bordeaux rosé Château Ninon qui nous avait été aimablement envoyé pour l'opération Bordeaux-Neige.
Ouais.
Hein, il avait ça. Alors, Château Ninon, Bordeaux, j'ai pas plus. Frédéric Roubineau, propriétaire à Grésillac-Gironde. Bah, donc c'est du Bordeaux supérieur, c'est tout ce qui n'est pas les grands châteaux.
On fait n'importe
mais
quoi.
Mais qui est en AOC, mais qui est pas mal.
Non, on fait n'importe quel ordre, hein, c'est pas grave.
C'est pas grave. On est à qu'est-ce qu'on
alors,
déguste.
Qu'est-ce qui se passe? On va parler de bande dessinée, c'est ça? Bah, tout à l'heure, ce qui est bien pour la transition, c'est qu'on avait Jean-Marc Padovani qui disait que le jazz, c'était pas obligé d'avoir fait une école. Et l'exemple parfait, c'est justement Django Reinhardt. Donc, une bande dessinée, qui s'appelle Django, au scénario de Johann Sfar, dont on a déjà parlé. Plusieurs fois, et de Clément Oubrerie au dessin, donc qui est le dessinateur d'Aya Diopougon. Alors ça se passe pendant l'entre-deux-guerres et on suit l'histoire d'un drôle de renard incroyablement doué pour le banjo, on en a aussi parlé tout à l'heure, qui va être compté par son ami Hérisson. Et c'est là la trouvaille de Johann Sfar d'avoir pris un personnage extérieur pour nous narrer cette histoire. Alors c'est le premier acte d'une biographie de Django Reinhardt à Pelage Roux qui sera en trois tomes. Alors l'histoire, normalement,
c'est la vie de Django Reinhardt.
Voilà, en gros. Mais traité à la façon de Johann Sfar, donc un peu iconoclaste, parce que, par exemple, d'habitude, les manouches, les hérissons, les manouches ont plutôt tendance à les bouffer.
Ah bah ouais.
C'est
les comme niglos, ça. Ils les appellent.
Ouais. Et du coup, bah voilà, niglos. Donc il y a un petit.
Ouais, niglos ou niglos.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc le petit hérisson qui va être le narrateur, lui, il voit le jour dans une case en osier qui est installée dans la roulotte de la fameuse famille Renard. Et il aurait dû y passer et se faire bouffer. Alors, autre petit clin d'œil à l'émission, c'est qu'on a la recette du hérisson à la manouche. Mais là, pour le coup, en ce petit matin belge, parce que ça se passe en Belgique au départ, de 1910, un heureux événement va changer sa vie à notre petit narrateur. Parce qu'il n'est pas assez gras. Et le petit Django, lui, qui est le premier-né de la famille Renard, pointe le bout de son museau. Et d'habitude, en plus des traditionnels couteaux, cigarettes, photos de fesses ou de banjo qui vont accueillir sa venue, un juvénile cousin va lui offrir pour cadeau ce fameux niglo, le hérisson. Et chez les manouches, un cadeau, c'est sacré. Alors voilà, les deux compères vont devenir amis pour la vie. Ils vont grandir ensemble en oubliant un petit peu d'aller à l'école. Hein. Ou alors juste pour y regarder les filles, ce qui est plutôt pas mal. Et ils vont voyager d'un bout à l'autre de l'Hexagone. Puis va venir le temps de l'Exode. La grande guerre débute et il vaut mieux, quand on est manouche, s'exiler. Alors à ce moment-là, c'était bien, sous le soleil arabe, pour éviter de se faire tuer. Alors, Johann Sfar, qui est un fan de jazz et de jazz manouche en particulier, joue aussi de la musique, mais quand lui y joue, ça donne plutôt ça.
Ouais, rien à voir.
Bah oui, c'est ça. Donc c'est mieux qu'il se consacre à la bande dessinée, parce que là par exemple il joue du ukulélé et puis après il va chanter. Donc on peut donc constater que tout le monde quand même ne peut pas être forcément doué pour le jazz. Alors apparemment l'idée de cette bande dessinée lui serait venue en découvrant la pochette du premier 78 tours de Django Reinhardt, et les éditeurs avaient à ce moment-là transformé son patronyme en un Django Renard banjoïste. Voilà. Alors, je ne sais pas si Georges peut nous confirmer ça, si c'est vrai.
Grégory Reinhardt a commencé par le banjo avant de faire jouer de la guitare. Hein.
Voilà, ouais. Et alors, voilà ce qui va nous embarquer.
Dans les orchestres, des restaurants.
Voilà, ils en parlent. La vie de Django est bien retracée. Ça nous embarque pour 3 tomes, donc dans sa vie. Et dans le premier tome, il s'attache plus particulièrement de sa naissance au terrible incendie donc qui va lui faire perdre l'usage de ses deux doigts à l'âge de 18 ans, mais qui va pas l'empêcher de devenir ce fameux joueur qu'on connaît. Alors famille manouche, absence paternelle, la condition miséreuse et la découverte de l'art du banjo avec un jeu presque immédiatement unique et virtuose qui va laisser la légende de Django Reinhardt. Donc on va passer par les expériences sexuelles, les premiers cachets, voilà. Alors la bonne idée, comme je le disais tout à l'heure, du narrateur extérieur, les talents de conteur de Sfar et le dessin de Clément Oubrerie nous offrent une très bonne BD. On n'est pas forcé d'être un amateur de jazz pour lire ça. Ça s'appelle Django, c'est le tome 1, Renard Manouche, c'est publié chez Gallimard.
Et normalement on écoute ça en le lisant.
Là c'est du vrai.
Là c'est lui. Alors... on va l'écouter. J'aime bien Django Reinhardt.
Ah oui.
Et si on a un petit Grappelli qui va avec, le duo Grappelli Reinhardt, c'est quand même t'es proche du paradis quoi. T'es vraiment pas loin. Et du coup, on se fait ça pendant qu'on sirote un petit peu de rosé parce que ça nous rafraîchit parce qu'il commence à faire chaud dans ces studios. On va passer un coup de fil à notre ami Richard Planas, directeur de la OC Limoux. Pour Tocs et Clochers. Drôle de manifestation, Tocs et Clochers. On se demande même si on va pas y aller faire un tour, nous, ce week-end.
Bah, il faut y aller samedi. Le dimanche, c'est la messe.
C'est vrai qu'il...
Santé de Grappelli et de Django Reinhardt et de Richard Planas que je vous demande d'accueillir au téléphone maintenant. Salut Richard.
Bonjour. Oui, salut, bonjour à toutes et à tous, aux auditeurs.
Bonjour Richard.
Salut Richard.
Merci d'être avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste pour faire un petit clin d'œil à Tocs et Clochers. Donc petit rappel, donc tu es directeur des AOC de Limoux, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Ouais. C'est bien ça.
Bon. Non, parce que je dis moi, à chaque fois, je dis directeur des bulles, mais...
Non. Vice-président des Ampélopholies, l'Ampélopholie du Cabartès.
Ben oui, où nous étions il y a quelques semaines.
La bulle est mon métier, c'est exact.
Et alors, il se passe quoi à Limoux ce week-end?
Alors, ce week-end, c'est un week-end de fête, hein. C'est une manifestation tant attendue par beaucoup de jeunes et de moins jeunes sur le secteur, c'est Tocs et Clochers. Donc c'est une manifestation qui s'étale sur le week-end, avec une journée le samedi qui est très très populaire, ouverte au grand public en fait, et qui se déroule sur deux villages viticoles, le village de Gardy et de Villebazy. Et le dimanche, la manifestation continue avec un caractère plus professionnel, un petit peu plus VIP, puisqu'il y a une vente aux enchères des meilleurs vins de l'appellation Limoux, élaborés par les vignerons Sieur d'Arc, donc qui sont proposés à la vente. Et on en est à la 24e édition, c'est un succès tous les ans, avec peut-être un record qui sera, en tout cas un record à battre, hein, qui est la vente d'un fût de Limoux blanc. Un fût, il faut compter 300 bouteilles. Donc, le record est de 10 500 euros le fût, hein, ce qui positionne ces vins hein, dans l'univers des grands crus.
Et on l'a bu, l'année dernière lorsqu'on était allé à Aire-la-Cave, à Roques-sur-Garonne. On a eu la chance de boire une bouteille issue d'une barrique achetée aux enchères à Tox et Clocher, et celle à 10 000.
Le mec, il arrive à se rappeler ce qu'on a bu, qu'on déguste il y a plus d'un an.
Mais arrière. C'était somptueux, ça fait partie des grands moments.
Tout ce qu'ils boivent, c'est difficile de se rappeler de tout.
Non, mais cette émission méritait qu'on s'en rappelle quand même.
Ah ouais.
L'idée
je savoure le jugement de Pascal, que je voudrais rassurer, s'il venait samedi et même dimanche à Limoux, nous faisons une messe inaugurale le samedi à 11h. Donc, Pascal, tu es le bienvenu.
Tu as dans l'idée de renommer CFM par Cabardès FM, non pas Cossade FM.
Effectivement. J'y rajouterai même un petit elle comme Limoux.
Et alors l'idée c'est de refaire les clochers et les vieilles églises qui sont autour dans les patelins autour de Limoux.
Alors effectivement, les bénéfices de la vente aux enchères vont pour partie à la réfection des clochers des 41 villages de l'appellation Limoux. Donc c'est la 24e édition. 24 clochers ont été ainsi rénovés.
Voilà. Il faudra 41 éditions pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on mange ce week-end à Tox et Clocher?
Alors, le samedi qui est le jour des festivités populaires avec musique de rue, dégustation des terroirs méditerranéens, Autun, haute vallée océanique, également de quelques bulles, blanquettes de limon et crémant. Donc il y a la possibilité de se restaurer, je dirais, debout sur des points de restauration, un petit peu comme aux Ampélopholies du Cabardès. Et donc là, on est sur des produits traditionnels, on est sur du magret grillé, on est sur des risottos de calamar, un parfait accompagnement des blancs, des huîtres, bien sûr, pour démarrer le repas. Après,
j'ai eu des calamars, des encornés, choses comme ça. Mais il n'y a pas de fricassé, par contre. Ça m'a étonné.
Il n'y aura pas de fricassé, mais il ne tient qu'à vous de venir sur Limoux pour en consommer dans n'importe quel restaurant de Limoux. C'est notre grande spécialité, produits divers que le Limouxien déguste, y compris en été. Vous attirez sur Limoux, hein, si ce n'est ce week-end.
C'est quand même un rendez-vous. Il y a des chefs à Tox et Clocher, hein, parce que.
C'est Tox Clocher, on vient d'en parler. Rénovation, on joue sur l'esprit de Clocher de façon très positive. Chaque village annuellement essaie de décorer son village et d'accueillir les visiteurs encore mieux que l'année précédente. Donc il y a une vraie émulation. Et Tox parce que cette manifestation est parrainée tout le temps par un des meilleurs chefs de la gastronomie française et même mondiale. La plupart des noms que nous connaissons tous, sans forcément y avoir dîné, hein, sont venus. Je pense à trois gros Bourguignons de Ducasse, Guérard, Robuchon, Bassard, etc. Voilà.
Et ils ont un rang de vigne à leur nom.
Et effectivement, il y a un clos de vigne qui est le clos des chefs. Et tous les ans, donc, un rang à nouveau leur est dédié. Les amateurs de vin peuvent également acheter six souches sur ce même clos, un magnifique terroir, et ainsi recevoir tous les ans les bouteilles produites par ces, par cette, par
cette. Oh, voilà.
Quel honneur.
Hein, c'est pas mal, ça. Oh. Bon, pour finir, ça, ça nous a bien mis l'eau à la bouche. Mmh. Peut-être, peut-être qu'on vient faire un saut dimanche après la messe avec, avec Pascal. Pour finir, Richard Planas, allez, mettez-nous, une bouteille sur la table pour ce week-end là. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme bulle pour ce week-end?
Alors, comme bulle pour ce week-end, il n'y en a qu'une à choisir. C'est l'un de nos plus beaux produits, élaboré par les vignerons Sieur d'Arc qui organisent cette magnifique manifestation. C'est leur grande bulle qui s'appelle Toques et Clochers. Donc, Toques et Clochers, édition limitée, une magnifique bouteille étiquette noire, d'une très grande subtilité et complexité. Pour les amateurs de bulles, sachez que c'est un élevage sur latte de 3 ans et avec une fraîcheur, une minéralité fantastique.
Crément ou blanquette?
C'est un crément de limon. C'est un crément de limon.
Voilà. Mais donc, on va rappeler que la différence, hein, c'est que la blanquette, c'est monocépage.
C'est du mosaïque.
C'est du mosaïque et que le crément, justement, là, oh, c'est un assemblage.
Un assemblage.
C'est un produit d'assemblage avec du chardonnay, du chenin, du pinot noir et un petit brin de mosaïque.
Tu as vu qu'on avait retenu la leçon quand même rencontre.
On n'était pas que sous.
On était...
Mais par contre, il va falloir faire venir un petit peu de commercial vers Montauban parce que pour trouver du Sieur d'Arc ici, impossible.
Ouais.
On m'a regardé avec des yeux ronds, on m'a dit. C'est quoi ce truc-là?
Ah ouais, on n'en trouve pas ici?
Effectivement, c'est un petit peu notre faiblesse. Hein. Alors, le Toques et Clochers est produit par les vignerons Sieur d'Arc. C'est une appellation qu'il faut considérer comme un grand cru et donc sur des volumes très limités. Mais effectivement, je pense que cette région est une région de proximité à conquérir, donc on va s'y attacher, et puis peut-être que vous pourriez nous aider.
Déjà, on va laisser passer Toques et Clochers, et puis on va se trouver une date pour
parce
que tu viennes ici.
Alors je suis prêt à venir, et puis je suis prêt aussi à vous recevoir, et j'ai deux occasions possibles. Qui mêle l'intérêt que vous portez aux produits de terroir et au vin, ainsi qu'à la musique, puisque est organisé sur Limoux Cuivré Spécial, un festival de musique consacré au cuivre, du 30 avril au 5 mai 2013, et certaines de nos entreprises sont associées à cette manifestation. Donc ça pourrait faire un prétexte à votre venue. Et puis un petit peu plus dans l'été, du 15 au 18 août, nous sommes aussi partenaires d'une manifestation, un festival de musique actuelle qui s'appelle Bulle Sonore. Donc vous imaginez derrière Bulle Sonore tout ce que l'on peut et déguster et écouter.
Bon, on va élire domicile
ouais, va
dans ton quartier.
Hein.
D'ailleurs, à Limoux, il y a un musée du piano.
Ah, effectivement, Georges qui est incollable, effectivement, il y a le musée du piano. Ouais. Limoux est une ville de très très musicale. Le carnaval de Limoux a généré depuis je sais pas combien d'années, mais c'est plus d'un siècle, une culture musicale de musiciens qui, sur les 3 mois de l'hiver, janvier, février, mars, ils sortent deux fois par semaine, samedi et dimanche. Il y a une école de musique, il y a la Lyre, qui est l'école de musique municipale. Il y a vraiment une grosse activité musicale sur les mots.
Merci Richard Planas, rendez-vous pour Toques et Clochers ce week-end. Évidemment, de nombreux vignerons sont là aussi pour faire déguster leur vin, leur bulle. Il n'y a pas que de la bulle, il y a de tout. C'est là-bas qu'il faut être parce qu'en plus, comme là-bas, il y a toujours du vent. Comme il va pleuvoir à Montauban ce week-end et à Rodez aussi, on vient là-bas.
Il n'y aura pas de pluie.
Il y a du vent, il n'y a pas de pluie. Pas belle la vie?
C'est parfait, on vous attend de pied ferme.
Merci Richard.
Salut Planas. Richard.
Bon week-end.
Il reste vraiment pas beaucoup de temps, mais une petite minute de Pink Turtle, ce serait
alors
bien.
Alors voilà, pour terminer, un morceau de Weed, Walk on the Wayside.
Ah, de Lou Reed.
Lou Reed.
T'es pas obligé de...
Lou Reed.
Mais oui.
Voilà, mais quand,
maintenant, we talk... We talk English sans rouler les airs. Tu
c'est comme Lou Barthes.
Lou Reed, Talk on the Wild Side.
Take a walk on the white side. Said, hey, honey, take a walk on the white side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given.
Demain, ou alors,
Pascal, ça sert à rien qu'au bout de 5 ans d'émission Qu'est-ce qu'on déguste, tu ne saches pas encore parler dans un micro.
Non, j'y arriverai jamais, moi, il faut vraiment mettre un micro baladeur.
Je t'adore. Donc, une petite annonce faite par Pascal Olivier dans Qu'est-ce qu'on déguste.
Une annonce en gare. Allô. Dégustation samedi 23 mars, c'est-à-dire demain, mais si vous écoutez la radio, la rediff, c'est aujourd'hui. À plaisir du vin Montauban, 210 avenue de Paris, il y a le célèbre château d'Adier. C'est du Madéran et Pacherenc de Vicqueville.
Du Madéran.
Ouais, Madiran et Pacherenc de Vicqueville. Et c'est de 11h à 19h, et Gérard vous recevra avec les bras ouverts.
C'est le château d'Adier.
C'est quand le prochain bœuf au VO les gars?
Eh bien, c'est le 29.
Le 29.
C'est vendredi 29.
Donc c'est pas ce week-end.
Avec un jazz. Avec un big band de jazz.
D'accord.
Un big band de 20 musiciens.
20 musiciens, ça marche.
Qui vient de Ramonville.
Quoi d'autre?
Ah ben demain soir ou ce soir si vous écoutez la rediff, 23 mars au Lézard Pub, il y a Maximiliano Band et Balkanski Rhythmi, c'est des chansons sonorités franco-bulgares, entrée 3 euros. Ça peut être marrant ça.
Et demain, nous serons au Rio Grande à Montauban pour le concert des Fatal Picard.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait d'autre?
On peut aller chez O'Neill's à Caussade.
Ah ouais,
un
pas
peu
mal.
De blues ce soir.
Pas mal, pas mal.
Ça s'appelle Juke Joint Band.
Ça c'est bien aussi. C'est tout.
Et Tox et Clocher dimanche.
Et Tox et Clocher dimanche à Limoux. Merci d'avoir passé encore une fois ce début de vendredi soir en notre compagnie. Merci à cette bonne idée, Jean-Marc Joigny, Pierre Conda.
C'est un plaisir de venir. Moi, j'aime
merci
venir
à Jean-Marc
ici.
Jean-Marc Padovani.
Mais Jean-Marc, il va venir, là, je sens.
Ça va lui donner envie.
Welcome. Mais avec son saxo. Il vient avec son saxo. Je vais faire la présentation. Tu mets ta batterie là. Vous jouez en direct. Hein?
Allez.
Mais oui.
On se le fait.
Expérimentation.
Ben oui.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste? Bon week-end.
Voilà.
Je sais pas, je sais.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.